Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Jusqu'à 11h, nous sommes ensemble. Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, à suivre Eva Rock pour le zapping du lendemain, ambiance crise d'ado, et Bertrand Chameroy pour son écran de veille avec un document exceptionnel sur le Tour de France. Je ne vous dis que ça. Ensuite, notre invité culture sera le chanteur Arthur H pour un concert très surprenant dans lequel se mélangent danse et boxe. Hélène Manarino va arriver sur le ring pour nous dresser son portrait inattendu. Et puis dans les indispensables, une série qui nous fait prendre de la hauteur avec Margot Barallon et une BD qui se moque des super-héros, ce sera avec Clément Le Saffre. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Bonjour Bertrand Chameroy.
Bonjour.
Comme chaque jour Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille. Un moment télé des dernières 24 heures à travers vos yeux de lynx. Qu'avez-vous regardé hier ?
Le Tour de France, eh oui, encore. Eh oui, hier je saluais l'abnégation de Franck Ferrand dont les anecdotes historiques sur la foudre tombée en 1852 sur cette petite chapelle ne passionnent pas ses collègues. Aujourd'hui, épisode 2 de notre saga Le Tour de France TV avec Alexandre Pasteur qui détrône Franck Ferrand et entre directement à la première place du classement de ce top bonne ambiance en cabine grâce à cette question posée à Thomas Vauclair.
Est-ce plus facile de rouler tranquillement ou de rouler à bloc?
Ah ça c'est une question, ça c'est une question con. Hein.
Franche rigolade, sauf pour Alexandre Pasteur qui n'a visiblement pas trop apprécié cette réponse de Thomas Vauclair. Pour s'en convaincre, il suffisait de regarder le Vélo Club, l'émission d'après-course diffusée sur France 2 et sur le site de France TV Sport. Car si à l'antenne, les téléspectateurs avaient droit à de la pub, les internautes, eux, ont pu assister à ça.
Il y a eu un petit accro entre Thomas et Alex. Alors, de toute façon, on y a droit tous les ans.
On y a droit tous les ans, vous aurez reconnu la voix de Franck Ferrand. Et oui, sur le net, les micros sont restés ouverts, transformant Vélo Club en récit des cancans de la cour. Voici le débrief de la question con d'Alexandre Pasteur à Thomas Vauclair par Franck Ferrand. Donc.
Il n'a pas bien pris du tout.
Ah, il n'a pas bien pris.
Non, il est presque sorti. Il s'est refermé, tu sais comment il
est. Ah ouais.
Ah, moi aussi, j'aurais. Moi, ça c'est pas sensible, ça c'est pas sensible en fait.
C'est pas entendu.
Non, ça s'est pas entendu. Heureusement, tout ça reste confidentiel. Hein. D'ailleurs, Philippe, je ne sais pas si vous vous êtes ennuyé lors de l'étape d'hier.
Oui.
Oui. Bon, bah, vous n'êtes
ça
pas...
roulait pas et j'ai changé de chaîne. Voilà, personne n'avançait.
Vous n'êtes pas le seul à avoir été un petit peu lassé par cette étape. Suite du débrief avec Johan Ofredo et Mathieu Lartaud. Pour eux, le question con gate a justement mis du piquant dans cette journée.
J'ai trouvé ça très drôle justement.
Ouais, moi aussi, je pensais que c'était joué en plus.
C'était justement le moment sympa de la course.
Un accrochage qui n'est pas nouveau si l'on en croit notre spécialiste de l'histoire et des ragots.
L'année dernière, ils nous avaient déjà fait ce coup-là, mais d'habitude, ils attendent plutôt la fin.
Ah ouais, ouais. Avec la fatigue.
Donc, je résume, personne ne calcule Franck Ferrand à l'antenne et Alexandre Pasteur est vexé par Thomas Vauclair et ça en seulement 5 jours d'antenne. Ce Tour de France TV s'annonce riche en émotions et en rebondissements. Alexandre Pasteur et Thomas Vauclair vont-ils se rabibocher? Franck Ferrand fera-t-il le plein sur sa croisière Napoléon? Eva Rock peut-elle arrêter de me faire du pied? Réponse dans le prochain épisode.
Blague
à part. Ah, oui. Sinon, elle voudrait bien.
Bah oui.
Blague à part, si les auditeurs veulent vérifier, est-ce que la séquence est encore disponible sur le site France TV?
Et non, car c'était en direct et le replay qui a été mis en ligne sur France TV a été expurgé des coupures pub et donc de cette séquence.
Et je précise qu'on va recevoir Alexandre Pasteur le 16, on ne manquera pas.
J'ai rendez-vous chez le dentiste ce jour-là.
La question. Après l'écran de veille, c'est le zapping du lendemain avec vous, Eva. Vous savez déjà quels seront les moments forts à la télé ce soir. Le thème du jour?
Les piou-piou, les mioches, les gosses, les enfants. Pour faire clair.
Piou-piou,
j'aime bien piou-piou. Les enfants. Et ils ont squatté nos écrans via les journaux télévisés et les sujets de rentrée. Ils sont aussi dans les programmes du soir. Même la série américaine 911 sur M6 n'y échappe pas. Titre de l'un des épisodes du soir de cette fiction qui met en avant les services de secours à Los Angeles. Les gosses d'aujourd'hui. Alors en l'occurrence, c'est un ado de 15 ans. Il a trouvé judicieux de piquer la voiture de collection de son père et le voilà lancé à une vitesse folle sur l'autoroute. Les flics à sa poursuite et lui qui appelle des secours tout en conduisant.
Peux-tu me dire ce qui se passe et pourquoi tu ne veux pas t'arrêter, Tony?
Parce que je peux pas, le levier de vitesse s'est cassé et la voiture va de plus en plus vite. J'arrive pas à l'arrêter. Aidez-moi!
Vous pensez qu'il dit la vérité?
Je pense que tous les gosses sont par définition des menteurs, alors qui peut savoir? Mais celui-ci semble vraiment effrayé.
Il a 15 ans, il a même pas son permis de conduite accompagné.
Alors évidemment, je ne vous dis pas comment tout ça finit, mais je vous rappelle que c'est une série américaine et que c'est une série américaine divertissante. Et donc, tout est possible. Pour d'autres enfants, aller à l'école paraît impossible, notamment quand l'établissement est à plusieurs heures de marche. Par exemple, sur Canal Plus Family, rencontre avec Zahira, Samuel, Carlos et Jackson. Quatre enfants qui sont avides de savoir, quatre enfants désireux d'avoir une autre vie que celle de leurs parents. Et pour eux, l'école est la seule solution. Sauf que parfois, sur la route, ça se complique pour Jackson et sa petite sœur.
Il y a des éléphants. Tu respires trop fort, il y a plein de bruit. Je pense qu'ils sont encore là, tu les vois. Dis-moi si tu vois les éléphants. Ne fais pas de bruit. Ils sont où? Chut. Dis-moi s'ils sont encore là. Tais-toi. On peut y aller.
Ce n'est pas une fiction, c'est un film documentaire, formidable film documentaire intitulé Sur le chemin de l'école, qui a ensuite été décliné en série documentaire pour France 5, avec la même sensibilité et la même intelligence, c'est à voir avec vos enfants.
Ouais, mais ils sont où les éléphants sur la route de l'école? C'est pas à Villetaneuse?
Mais non, ils sont au Kenya et ils ont 22 km de route à faire tous les matins pour aller à l'école, vous imaginez? Nous, on ne les ferait pas. Hein.
Chameroy, il avait peur déjà.
Nous, on croise des chiens, c'est tout ce qu'on peut croiser dans la rue. Alors, c'est à voir avec vos enfants, en tout cas sur Canal Plus Family, tout comme le programme court dont je suis absolument fan, qui est à savourer sur MyCanal ou en clair sur Canal+, tous les soirs à 20h55, Les Cahiers d'Esther, série animée adaptée des bandes dessinées de Riyad Satouf et qui met en scène la vie d'Esther, 11 ans, fillette malicieuse et qui jubile, ça sera plus clair, parce que sa maman l'autorise à sortir dans le quartier avec sa copine et 5 euros en poche. C'est une grande première et cette grande première, elle débute comme ça.
La première chose qu'on a faite, c'est d'aller à la boulangerie. Et là, on a regardé les mini beignets. 5 euros divisé par 60 centimes, ça fait combien, wesh? On en a acheté 8 au Nutella. C'est une crème au chocolat, mais tellement bonne. Ma mère, en général, elle veut pas en acheter des beignets, ou alors un seul maximum.
La boulangerie, wesh. Bah oui, parce que Esther, elle ponctue toutes ses phrases d'un wesh, même quand elle s'adresse à sa mère.
On avait le droit d'être dehors une heure seulement, alors on est rentré et voilà ce que j'ai dit à ma mère. Wesh, maman, et on pourra ressortir la semaine prochaine, mais 2 heures avec 20 euros, s'il te plaît, merci. Et ma mère, elle a fait.
Attends, t'as dit quoi là?
Voilà, c'était ma première sortie.
Ah, c'est sale gosse, comme dirait ma maman. Voilà. Alors, je récapitule, les bêtises d'un ado, c'est dans la série 911 sur M6 à 22h50. Le chemin vers la connaissance s'ouvre sur Canal Plus Family à 20h50 et les bons mots d'Esther sont à découvrir sur mycanal.fr.
Merci Eva Rock, merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain.
Avec plaisir.
Dans un instant, Arthur H, le chanteur, sera avec nous, mais d'abord musique avec Barry Moore.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Arthur H.
Bonjour.
Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Vous êtes fait connaître en 90 par un premier album aux accents de jazz et cette voix rocailleuse qu'on entend là.
Vous venez
de nous parler d'un spectacle assez exceptionnel au sens propre du terme. C'est pas galvaudé. On aurait dû le voir en avril, mais elle a été décalée à cause du confinement. Ça s'appelle La Boxeuse Amoureuse. Je vais donner les dates tout de suite. Ce sera à la scène musicale à Paris lundi 21 et mardi avec deux représentations, dont une à 19h. Avant qu'on raconte le spectacle, tout part d'une chanson qu'on va entendre dans quelques instants, La Boxeuse Amoureuse. Que raconte cette chanson?
En fait, à un moment, ma femme m'a dit « Écris une chanson sur ta mère ». Et je me suis mis au piano, j'avais cette musique qui tournait depuis longtemps, et puis bam, La Boxeuse Amoureuse est sortie comme ça. Donc c'est une espèce de portrait sensible, disons, de, peut-être l'identité secrète de ma maman, d'une femme voilà, qui monte sur un ring. C'est peut-être une image d'une partie de sa vie amoureuse, en tout cas pas la plus heureuse, mais peut-être la plus tourmentée, quoi. Elle a une vie amoureuse pleine de montagnes russes. Donc voilà, c'est une femme qui peut tomber à terre et prendre des coups, pas littéralement, pas physiquement, mais prendre des coups émotionnels, des coups d'amour, tomber à terre, mais qui va toujours se relever et qui va toujours retrouver une forme de grâce.
Vous avez tourné un clip, vous êtes au piano, il y a Roche Dizem, le comédien qui joue, il y a Marie-Agnès Gillot qui est danseuse étoile, clip vu 3 millions de fois, ça vous a dépassé ce succès?
Ouais, complètement, oui, c'est sûr que par rapport au rap, c'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup, quoi. Et du coup, ouais, le clip a une petite magie, et puis ce couple-là qui est vraiment très très beau, Rochdi et Marie-Agnès, ils sont vraiment beaux ensemble.
Marie-Agnès Gillot, c'est elle qui a l'idée d'en faire un spectacle, en voir à la scène musicale. Elle avait conçu pas moins de 7 spectacles, du classique, du moins classique, dont La boxeuse amoureuse. Et la saison dernière, je l'avais reçue. C'était il y a presque un an. On était début octobre 2019. Et je lui avais demandé à Marianne Gillot de raconter le concept, sa réponse en musique.
Regardez-la danser quand elle s'approche du ring. La boxeuse amoureuse, la boxeuse amoureuse.
Alors raconter, ça vous fait sourire?
Ouais, mais non, je me souviens des mouvements en fait, je reprends les...
Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y aura Arthur Hage qui sera là.
Oui.
Vous serez là?
Oui.
Il y aura Roche Dizem ou pas du tout?
Non, il y aura Souleymane Sissoko.
Ouais. Et on verra quoi? Vous allez danser avec Arthur Hage au piano, qu'est-ce qui va se passer?
C'est pas encore créé, mais
d'accord.
J'aimerais bien vraiment créer un vrai match de boxe, mais vraiment en chorégraphie. C'est mon art de m'identifier à du réel alors que c'est faux.
Alors qu'est-ce qu'on va voir sur scène? Vous savez ou pas? Attendez, je vais dire aux auditeurs ce que m'a dit Arthur Hage en entrant. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on va voir sur scène? Et il m'a dit, je peux pas vraiment répondre, on le sait pas encore vraiment.
Non, c'est pas ça, mais c'est que ce genre de spectacle, toi t'as des spectacles que tu peux préparer pendant des mois, si tu fais là il y aura quand même quelque chose de spontané, de direct. Après, Marie-Agnès se prépare, tu vois. Nous, je me préparais avec mon ami musicien Nicolas aussi, et après il va y avoir la magie de la rencontre entre cette danseuse magnifique, ce boxeur extraordinaire qui vont être sur scène.
Moi, ils vont être sur scène en même temps?
Ah oui, bien sûr.
Il ne va pas boxer Souleymane Sissoko, c'est pas comme dans le sketch des Monty Python.
Si, il va attaquer Marie-Agnès, il va essayer de se défendre. Nous, on va essayer de défendre Marie-Agnès et on va tous. Non, t'inquiète pas, non, c'est pas un vrai match de boxe. Ce sera figuratif, quoi, en tout cas symbolique, en tout cas j'espère. Ou alors, il faut que je commence la boxe tout de suite, mais là, c'est un peu tard, je pense.
La chanson dure 3 minutes, le spectacle va durer combien de temps?
Le spectacle, malheureusement, il va être court parce qu'il y a des restrictions. Ouais. Donc, c'est 1h15.
D'accord.
Ouais.
Non, mais alors, quelle est la musique que vous avez composée autour de ça?
Alors, la base, en tout cas, quand il y aura Marie-Agnès et Souleymane, on va faire plusieurs versions de La boxeuse amoureuse, une version étendue, élargie, plus un moment, je pense, de transe. Je trouve, enfin, moi j'aime beaucoup la danse, j'aime beaucoup la boxe, et la boxe peut effectivement parfois être une danse. Donc je pense que Marie-Agnès, elle va chercher ça. Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est vraiment le corps dans sa splendeur, quoi, dans son expression. Et puis nous, tout simplement, en tant que modestes musiciens, on va essayer de fabriquer un tapis volant en dessous, tu vois, pour que tout le monde puisse décoller, quoi.
Tout ceci a l'air très inattendu. Et ça tombe très bien puisque dans un instant, on va recevoir Hélène Manarino pour son portrait inattendu. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arthur Hage, on a parlé de La boxeuse amoureuse, c'est un spectacle qu'on va voir bientôt. Il y a aussi un livre qui s'appelle Fugue, dont on va parler. Mais d'abord, je vais vous présenter Hélène Manarino. Bonjour Hélène.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous, bonjour Arthur Hage. Je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, Arthurito, tuture, vous pouvez réagir en disant...
Déjà, il a ri.
Zonga, c'est le mot que vous dites tout le temps après une phrase apparemment. Mais avant toute chose...
Ouais. C'est vrai?
Bunga, ouais. Unga, unga.
Unga.
Ah. Unga, ouais. Et après, je me suis aperçu que c'était le cri de Tarzan, Johnny Westmuller, pour appeler les éléphants.
Et ben ouais.
Donc peut-être ça vient de quand j'étais petit. Ouais.
Avant toute chose, concentrons-nous. Et pour que ça marche, vous avez souvent besoin de ça. Brian Eno, oui, Arthur Hage, de plus en plus de calme, de méditation. C'est ce que vous avez découvert pendant le confinement, avec le yoga également. Et puis, nouveau rituel bien-être, du citron avec du bicarbonate au petit déjeuner, avec des bananes et des amandes.
C'est dégueulasse, le citron du bicarbonate.
Je vais révéler mon petit déjeuner à la fraîche du monde entier.
Ouais. Et oui, et c'est pas fini. Vos repas préférés, les légumes et du riz tout seul, plus plat désormais appelé le riz tout con. Esprit sain.
Ah bah vous avez parlé à ma fille quand même, non?
De toute façon,
l'enquête policière.
Vous
êtes au début de l'enquête. Esprit sain dans un corps sain. Mettre des micro-siestes absolument partout où vous vous trouvez. Oui. Avant un concert, il y a votre thé citron-miel et votre petit carré de chocolat noir, 70% bio. La solitude pour travailler dans les Landes, votre lieu de prédilection. Ou alors pendant les vacances, récemment dans une maison d'un de vos amis, vous vous projetiez le film La Dolce Vita de Fellini, sans le son, et vous faisiez vous-même la musique en même temps.
Waouh.
Et oui.
Le nouvel Ennio Morricone.
Que voilà, vous aimez beaucoup, moi, d'ailleurs. Que vous aimez beaucoup. Alors, Arthur H., patron de vos destinations, bon, vous détestez les GPS, vous râlez systématiquement quand il y en a un.
Oui. Pourquoi vous détestez les GPS? Vous aimez bien vous perdre?
Non, j'aime bien trouver tout seul, comme un grand, quoi.
Ouais.
Comme un aventurier.
Ouais. Mais si on arrive au dessert alors que c'est le dîner?
Oui, bah, parfois je l'utilise.
Mais heureusement, dès que vous montez dans votre voiture, il y a cette musique qui démarre.
Les amours
perdus. Serge Gainsbourg.
Ok, je connais vos sources maintenant.
Arthur H., vous avez toujours été très concentré, un enfant curieux de tout, fan de Pif le Chien, de Rahan, des Vikings. Bercé par l'histoire racontée par votre maman, trois hommes dans un bateau. Mais surtout à l'âge de 10 ans, passionné par une période de l'histoire, la Commune, 1871. Et surtout par les communards, vous aviez appris qu'ils étaient enterrés au cimetière du Père Lachaise. Alors tous les mercredis, vous preniez le bus tout seul, avec seau, pelle, sac plastique, et vous nettoyez leurs tombes.
C'est vrai ?
Et vous étiez très fier. À 10 ans. Alors, c'était votre côté punk, un petit peu, que vous avez très vite adopté grâce à eux. Riders on the storm.
Into this house we're born. Là, vous avez malheureusement commis une erreur fatale.
Ah oui,
ah non,
parce que punk, c'est Sex Pistols, c'est pas les Doors.
Ah mais, alors, vous savez, c'est ma phrase d'après. Il y a les Doors, mais il y a surtout les Sex Pistols.
Ah oui, oui.
Voilà, d'accord. vous pouvez vérifier. Votre punk aussi.
Non, mais il y a quand même des gens, je vais la défendre, qui disent que Jim Morrison était un des premiers des punks. Allez-y, Hélène.
Que vous
voilà,
oui,
je la sauve.
Pas musicalement.
Ouais, ouais, ah non, ça, on est d'accord.
Bon, on va faire un débat sur la musique
il a fini
après.
Pareil, il a
je vais
fini
finir
pareil.
Votre portrait.
Hélène.
Punk aussi dans un club de vacances à l'âge de 14 ans où tout le monde était en maillot de bain autour de la piscine en train d'effectuer les danses du club et vous, vous êtes resté toute la semaine habillé en noir sans vous laver les cheveux, quand même.
Ouais.
Vous vous souvenez?
Ouais, à 14 ans.
Ouais. À 14 ans. Alors Arthur H., vous faites surtout attention à vos affaires. Alors longtemps, il y a très longtemps, vos figurines se trouvaient dans le frigo. Vous en preniez soin, quelques figurines.
Ah ouais, ça c'était il y a longtemps.
Et puis il y a surtout votre plus grande passion.
C'est quoi ?
Star Trek.
Vous connaissez tout par cœur depuis l'épisode 1 de la saison 1.
Oui, je suis un vrai trekkies. Un peu moins maintenant, mais quand même.
Alors, vos goûts sont assez éclectiques puisque pour apprendre la basse, vous déchiffrez du bac et vous avez surtout un chant diphonique. Vous êtes capable de sortir deux notes en même temps.
C'est pas vrai.
Démonstration.
Je croyais que c'était impossible.
Ah putain, c'est pas évident là. Alors, chant diphonique sur Europe 1, première. Oh putain, non, non, je vais pas y arriver parce que j'ai envie de rire et c'est vachement dur de faire du chant diphonique en envie
on
de rire.
On le fera tout à l'heure,
c'est impossible.
Mais vous avez surtout l'oreille absolue, sûrement grâce à votre stage chez Tomatis, un professeur spécialiste de l'oreille interne. Bon, vous avez été viré d'un cours suite à un fou rire.
Encore.
Et votre papa, Jacques Higelin, avait vu juste, il disait cette phrase, le plus grand atout d'Arthur pour les femmes, ce sont ses oreilles.
Ah ouais, peut-être.
Et oui. Votre compagne, justement, a bien entendu, elle vous émeut souvent en chantant ça. If it's a crime, I'm guilty. Guilty est la fille de Gérald. Alors, vous allez bientôt être papa une nouvelle fois. Alors, vous êtes en train de lire un livre, mais je ne peux pas donner le titre car il porte le prénom de votre futur enfant.
Ouais.
Alors, Arthur H., votre route, vous la connaissez par cœur, fidèle à vous-même, sans jamais changer de direction. Et c'est pour ça que vous n'avez jamais semé votre public.
Wow. Merci Hélène. Vous pouvez tenter la diphonie.
Attends. Non, je ne vais pas y arriver, franchement.
On va le faire après, pardon pour cette mise en scène.
Restez là.
Vous restez, Hélène, on se retrouve très vite.
Évidemment.
Voilà, les Sex Pistols.
Mais ils sont là, les Sex Pistols.
Ça change des danses quand même,
punk.
Non
voilà.
Dans un instant, on part à la découverte d'une nouvelle série Netflix avec notre indispensable Margot Barallon, No Future. Tiens, sers-moi une bière.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
En compagnie d'Arthur H., je le rappelle, la boxeuse amoureuse, c'est à la scène musicale. Ce sera les 21 et 22 septembre avec Marie-Agnès Gillot, la danseuse étoile, et Souleymane Sissoko, le boxeur, ancien champion de France. Et là, je m'adresse aux auditeurs, aux auditrices. Même si vous n'avez jamais acheté ou téléchargé un titre d'Arthur H., qui a eu des victoires de la musique, plein de choses comme ça, vous avez sûrement déjà entendu cette voix. Elle est passée très, très, très souvent sur Europe et sur d'autres radios. La preuve.
Un joli haut en soie avant le cours de yoga, un sac de gourgandine à l'heure de la cantine, appli chaud, montant et maîtrisé.
Tout le monde se marre dans le studio. C'était mais donc c'est... vous. Je me disais, mais il a, ce type qui chante, il a la voix d'Arthur H. En fait, c'est vous.
Ah ouais, il a vraiment la voix d'Arthur H.
Ouais, mais c'est vous.
Non, c'est pas moi. Non.
Ouais. C'est vous qui écriviez les textes ?
Non, quand même pas, non.
Parce que je me suis dit, quand même, pour laisser passer un sac de gourgandine.
Non, moi, c'est un truc qui m'a pris 20 minutes à faire, hein, ouais. Vraiment. Et après, j'ai mis de l'argent de côté. C'est une petite boîte d'édition pour m'acheter un. Parce que mon rêve, c'est de m'acheter un studio, vraiment.
Ouais.
Donc voilà, cet argent de la publicité, je le mets de côté pour m'acheter un studio. Voilà, c'est la vérité. Voilà. Je plaide coupable.
Premier album en 90, en 93, vous étiez révélation masculine aux Victoires de la Musique. Victoires de la Musique en 2009. Les albums Adieu Tristesse et L'Homme du Monde certifiés disque d'or. Et je vous ai entendu dire qu'à part votre premier album, vous avez vécu la sortie de tous les autres comme autant d'échecs. Comment c'est possible?
Bah, c'est possible, c'est comme ça, quoi. C'est pas, ce sont pas le seul dans ce cas-là.
C'est
même
Adieu
Tristesse, par exemple,
ouais.
Qui était un beau succès, tu vois.
Mm-hmm.
Enfin, vous voyez, mm-hmm. C'était un très beau succès, mais après, pour moi, ça a fini comme ça, comme une espèce d'eau de boudin. Le live, on a sorti un live qui a pas marché du tout. Enfin, j'ai pas du tout eu l'impression d'un succès. J'ai eu l'impression d'un succès plusieurs années après, en fait.
Ouais.
Mais pas au moment même.
Ça va finir comme L'Homme à la tête de chou. Je crois que Gainsbourg en a vendu 5000.
Ouais. C'est disque avant aux armes, etc. Ouais.
C'est tout le malheur que je vous souhaite. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe.
On va parler série. C'est une série qui a un succès ou pas? On ne sait pas. Ça sort demain. Sur Netflix.
Ça sort demain.
Qu'est-ce que c'est?
Ça s'appelle Away. C'est loin en anglais et c'est une série qui va vous emmener dans l'espace. L'histoire, c'est celle d'Emma Green, interprétée par l'actrice Hilary Swank. Elle est astronaute américaine et se retrouve au début de la série commandante de la mission Atlas avec 4 collègues d'autres nationalités. Et ensemble, ils ont la lourde tâche de se lancer dans ce que personne d'autre n'a fait avant eux, poser le pied sur Mars.
Atteindre Mars sera probablement la plus grande de toutes les réussites humaines. Non seulement pour la science, mais aussi pour l'avenir de notre planète.
Sans oublier que ça va être un voyage d'enfer.
Et oui, ce sera un voyage d'enfer, mais attention, dans tous les sens du terme.
C'est-à-dire, ça se passe mal?
Bon, en même temps, si ça se passait super bien, ça ne ferait probablement pas une série.
Ouais, enfin, c'est un épisode.
Mais c'est même un peu le problème parfois. Il faut accepter en tant que spectateur qu'à peu près tous les incidents possibles et imaginables arrivent aux personnages. Même si ce sont toujours des mésaventures très réalistes, c'est parfois un peu too much. Dès le début, alors qu'Atlas se dirige vers la Lune pour faire une étape avant Mars, un problème technique perturbe le vol, alors rien de grave. Mais Emma Green n'a pas tout à fait la bonne réaction et les astronautes sous son commandement deviennent très sceptiques.
On a déjà vu comment elle réagissait en cas d'urgence. Comment elle va faire pour commander avec ce genre de stress?
Il en faut un vrai commandant.
Oh, comme toi, par exemple, c'est ça?
Et pourquoi non? Parce que je suis russe?
Non, parce que tu n'es pas dans la chaîne de commandement.
Lui, il l'est.
Les Américains ont eu tort de prendre Emma plutôt que vous, Jack.
Ben, jamais trop tard.
Pardon?
On peut dire au centre de contrôle qu'on a une confiance totale en Jack.
Je suis entraîné pour prendre le relais, mais... Donc tu parles de mutinerie?
Donc voilà, le groupe vit pas très bien. Et ajoutons à cela qu'au moment de quitter la Lune, Emma apprend que sur Terre, son mari a fait un AVC. Vous avez une petite idée de ce que va être ce voyage d'enfer.
Mais du coup, c'est une série de science-fiction ?
Eh bien non. Pas du tout. Alors certains pourront trouver ça frustrant. Moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi avec Away. Je rassure Arthur H., le grand fan de Star Trek, on vous embarque quand même dans un vaisseau. Vous avez un budget, une production insuffisante pour avoir de très bonnes séquences dans l'espace, avec du frisson, de l'action.
Ouais.
Mais au fond, c'est avant tout un drame, parce que ce voyage vers Mars dure 3 ans. Que tous les astronautes laissent des gens qu'ils aiment derrière eux. Vous avez des personnages qui devraient être hyper excités et qui sont en réalité constamment ramenés sur Terre, traversés par le manque des autres, de leurs proches. Plus ils s'éloignent, plus les communications sont difficiles. Oui, c'est donc en fait une série sur l'arrachement. Un peu comme si on avait croisé, pour ceux qui connaissent, la série This Is Us et le film Apollo 13. Alors certes, il ne faut pas avoir peur du mélodrame, mais c'est une belle découverte à la croisée des genres.
Apollo 13, j'adore, parce que tout est vrai, ce n'est pas de la science-fiction, c'est vraiment passé. Ça vous tente, Arthur H?
Un voyage sur Mars?
Non. Le gars, il est toujours l'étape d'après. Non, cette série.
Bah oui, j'imagine que ça doit être sacrément difficile, surtout s'il y a une mutinerie, un AVC, il se passe plein de trucs. Quoi.
Ouais. Vous êtes fan de séries à la base ou pas?
Un petit peu, de temps en temps.
La dernière que vous avez vue?
Il faut être un peu déprimé pour se voir des séries très longtemps, parce que c'est Si je suis déprimé, oui, je vais regarder des
vous
séries.
Vous faites rire Margot Barallon, c'est vrai qu'il faut être déprimé pour regarder beaucoup de séries.
Non, mais c'est vrai que la série se prête bien à la dépression.
Oui, voilà, la série marche bien avec la dépression.
On va se quitter sur cette note d'espoir. Culture Média, continuons à parler de comics. Restez avec nous, Arthur H. Merci beaucoup, Margot. À très vite.
Merci.
Ah oui, il fallait que j'annonce la musique, je l'ai oublié. Dans un instant, le deuxième indispensable du jour, c'est un comics, je l'ai dit. Mais d'abord, justement, le titre de notre invité, Arthur H., La boxeuse amoureuse.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Arthur H., Fugue, on va en parler tout à l'heure. La boxeuse amoureuse qu'on vient d'entendre, c'est un spectacle, on va en reparler. Mais là, notre deuxième indispensable, c'est avec vous, Clément Le Saff. Bonjour Clément.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, c'est pas un jeu vidéo. De quoi nous parlez-vous? En fait, je le sais, vous allez nous parler de comics.
Eh oui, de comics, c'est pas n'importe lequel. Un comics qui s'appelle The Boys, qui a été adapté en série. Ça a commencé l'an dernier, c'était sur Prime Video, une série que nous avait recommandée notre spécialiste Margot. Et moi, je vais donc vous parler du comics cette fois, puisque tout est lié dans la pop culture, tout se transforme. Alors déjà, je vais vous recommander, au-delà de Margot, moi-même la série The Boys, qui est très très bien, très jouissive à regarder. Mais figurez-vous que le comics est encore plus dingue. Les 7 tomes qui composent cette saga ont été publiés entre 2006 et 2012. J'ai rattrapé moi tout ça cet été et j'ai pris mon pied.
Alors, racontez-nous l'histoire, Clément.
Pour résumer, c'est une BD satirique qui se moque sans prendre de gants des super-héros, les Boys du titre. C'est un groupe de 4 mecs et une fille couverts par la CIA. Leur job, c'est de tenir en laisse les super-héros. Rien que ça, alors vous allez me dire, pourquoi s'inquiéter de héros qui sont censés sauver l'humanité?
Eh bien,
parce que dans le monde de The Boys, les super-héros sont tous complètement givrés. En public, tout va bien, ils aident les gens, ils ont le sourire ultra bright. Mais en privé, ce sont de vrais psychopathes, ivres de pouvoir et d'argent. Ils font n'importe quoi, ils tuent et ils violent des innocents, sauf que personne ne le sait.
Ça arrive parfois que les médias relaient l'info sur un accident, comme avec Robin. Mais de manière générale, ils s'arrangent pour mettre la poussière sous le tapis.
Pourquoi ?
À ton avis. Billets de cinéma, merchandising, parcs d'attractions, jeux vidéo. C'est une industrie qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui est défendue par des armées de lobbyistes et de politiciens de tous bords.
Voilà, The Boys raconte donc la chasse que mène ce petit groupe de mercenaires déjantés à des super-héros qui le sont encore plus qu'eux. Mais là où c'est doublement cynique, on l'a un peu entendu dans cet extrait, c'est que tout cela se passe dans un monde où les super-héros ont été privatisés par une énorme entreprise qui s'appelle Vought America. Toute ressemblance avec Disney serait purement fortuite. Elle a transformé les Vengeurs masqués en purs produits commerciaux. Exemple tiré à nouveau de la série Stella, une super-héroïne a sauvé une jeune femme sur le point de se faire violer. Plutôt une bonne action, donc problème, elle l'a fait sans son costume et elle a été filmée. Alors Vought lui reproche d'avoir agi jusqu'à ce que le marketing s'en mêle.
La fille qui se faisait violer, la victime, elle a vu cette vidéo sur YouTube et elle veut vous remercier de l'avoir sauvée.
C'est une bonne nouvelle, non?
C'est une nouvelle extraordinaire. Tu casses la baraque dans tous les sondages. Tu fais une grosse progression auprès des hommes pour cet acte courageux, mais auprès des femmes aussi. T'es devenu un symbole. T'as gagné 16 points chez les hommes entre 18 et 49 ans, y compris dans les bassins libéraux et gauchistes comme New York et San Francisco.
C'est un peu les super-héros façon baromètre opinion way.
Ouais.
Tout le sel de The Boys, en fait, est là. Ça se moque des super-héros, mais aussi, bah, quelque part, de nous, de notre propension, finalement, à placer nos icônes sur un piédestal, sur la simple base de leur image publique.
Mais juste un mot, la série est adaptée des comics. Donc, ça veut dire que si on regarde la série, on connaît déjà l'histoire.
Alors, en partie, mais pas totalement. Et c'est ça qui est plutôt intéressant, moi, je trouve, puisque les showrunners de The Boys ont adapté très librement le comics. Il y a des passages en commun, des scènes marquantes qui ont été reprises. Le fil rouge reste le même. Mais les deux récits sont assez différents. Là où la série fait beaucoup de place aux super-héros parce que c'est plus vendeur pour le grand public, le comics lui se concentre vraiment sur ce groupe, les Boys. Et puis il y a le ton, la série va déjà assez loin dans le trash et la provoque, mais le comics est d'un tout autre niveau. L'auteur qui s'appelle Garth Ennis, il est un peu au comics que Bret Easton Ellis est à la littérature.
Oh,
c'est sexe, drogue, violence et rock'n'roll à chaque page. L'auteur ne respecte absolument rien, c'est un vrai big bang du genre super-héroïque. Je préviens quand même au cas où, hein, c'est pas un comics à mettre entre toutes les mains, public jeune et ou sensible s'abstenir. Pour les autres, foncez parce que vous ne le regretterez pas, c'est très très drôle. Et comme le dit Billy Butcher, le chef des Boys en VO, s'il vous plaît.
Holy fuck! That was diabolical!
C'est diabolique.
Ouais, c'est diabolique. C'est le premier mot, je l'avais bien compris, il n'y avait pas besoin de le traduire. Merci beaucoup Clément Le Saff, ça vous tente Arthur H. Vous êtes fan de comics? Parce qu'on sait déjà que vous êtes fan de Pif et de Raon.
Donc oui, là, mais ça c'était quand j'avais 8 ans.
Ah, j'avais pas compris.
C'était je plaisante. Quand même.
Non, blague à part, vous êtes fan de comics ou vos enfants?
Non, pas vraiment, non, mais ça a l'air très violent, mais ouais, ça a l'air intéressant.
Effectivement, c'est pas pour les enfants. Très violent.
Voilà, et on ne peut pas montrer toutes les images à la caméra sur Europe1.fr.
Alors que Pif, c'était pas violent.
Comment? Mais pas du tout.
Enfin, si, quand même, Hercule, ouais. Il en prenait plein la gueule.
Ouais, et il s'engueulait parfois avec Pifou. Glop, restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Arthur H et une surprise.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
En compagnie d'Arthur H, pianiste, compositeur, musicien et aussi chanteur, cette voix avec du papier de verre un peu dedans, c'est la vôtre ou vous l'avez travaillée ou c'est votre voix naturelle, Arthur H?
Non, c'est ma voix naturelle, au contraire, je travaille pour l'éclaircir, pour être libre dans ma voix, chanter aigu, parfois avoir une voix très féminine.
Ouais.
Avoir une voix très forte, avoir une voix très douce, j'ai juste envie d'être libre en fait.
Un jour vous avez dit, je suis un crooner contrarié, et ce qui est amusant c'est qu'au départ, vous avez la voix très très claire. On a un document, c'est une chanson de votre papa, le regretté Jacques Higelin, ça s'appelle Crabouif, on est en 71, et vous avez 5 ans.
Le petit tambour du roi, le petit tambour du roi, c'est... Je me rappelle plus de la suite.
J'adore, ça dure 50
secondes. On me reconnaît bien quand même.
Ouais. Ça dure 50 secondes comme ça. Je passe ce son parce que je voudrais parler de Fugue. C'est votre autre actualité. C'est un récit autobiographique qui était sorti au Mercure de France l'an passé et qui sort en poche la semaine prochaine. Ça raconte votre vie, votre enfant, surtout votre maman, un peu votre papa. Il y a des moments très très forts. Vous racontez cette scène, vous avez 15 ans, vous êtes à Pointe-à-Pitre avec votre papa Jacques Higelin, son pote Coluche, votre petit frère. Vous êtes à l'aéroport, vous êtes sur le point de rentrer à Paris. Et là, au moment de passer la douane, vous fuguez et vous partez, vous quittez l'aéroport. Mais le plus dingue, c'est que votre père prend l'avion quand même.
Ouais.
Votre mère, elle lui dit quoi? Ils n'étaient plus ensemble, hein?
Oui. Ma mère, écoute, elle était juste absolument stupéfaite, quoi. Évidemment qu'elle, elle serait restée. Mais après, je raconte la conversation, quand il l'a appelée quand même 2 jours avant, elle a dit « Alors on est bien rentré de voyage et tout ça, ok, d'accord, et Arthur, il est où ?»« Arthur, je sais pas. Comme ça, tu sais pas, il est pas rentré avec vous ?»« Non. Mais il est où ?» Je sais pas.
Quand même et il a dû lui dire, vous étiez à Pointe-à-Pitre, mais vous avez fait quoi à Pointe-à-Pitre, sans argent, sans connaître personne à 15 ans?
Oui, après, c'était pas non plus... j'étais pas SDF, je suis retourné sur le bateau avec des gens que je connaissais, tout ça.
Ouais.
Mais ma mère le savait pas.
D'accord. Et maintenant, avec votre fils, quand vous l'avez emmené dans les Antilles, vous avez eu peur qu'il fugue?
Non, ça va, non, j'ai pas eu peur.
C'est vrai. On a une petite surprise pour vous.
Ouais.
Hélène encore est revenue dans le studio.
Je suis revenue, et oui. Alors, Arthur H., on va entrer dans le vif du sujet. Si je vous montre ça...
Héritage, ouais.
Le magazine Que Choisir.
Ouais.
On est sur une passion avec ce magazine Que Choisir, Arthur H. Vous avez pris un abonnement pour cette année. Alors, de vos rituels le matin, c'est de lire la rubrique Courrier des lecteurs.
Ouais.
Les lecteurs partagent leurs mécontentements, leurs mésaventures dans leur quotidien et cela vous passionne. Même plus que ça, vous avez tendance à les lire à haute voix, les interpréter. Ces annonces deviennent presque théâtrales et elles sont parfois enregistrées. Mais vous ne le savez pas toujours.
Ouais.
Notamment une histoire qui vous a passionné, que vous avez pu lire à votre fils avant qu'il parte en cours. Une histoire de drone. Alors, j'ai pas pu résister, Arthur H, parce que je suis là pour absolument tout dire. Nous avons ces enregistrements.
Non.
Alors,
non.
Ils ne restent plus dans votre cuisine. Ils sont maintenant dans les mains de tous. Arthur H qui lit Que Choisir.
Autour de ma propriété, j'ai installé des panneaux comportant la mention propriété privée, défense d'entrée. Si un drone survole mon terrain, puis-je le détruire? Détruire un drone survolant votre propriété n'est pas autorisé. Son propriétaire pourrait porter plainte contre vous pour dégradation volontaire. Article 22.1 du Code pénal. En outre, si vous lancez un projectile qui atteint l'appareil en vol, vous risquez d'entraîner sa chute. Logique. La cade est susceptible de provoquer des dégâts, comme casser une vitre ou pire, blesser quelqu'un. Votre responsabilité civile serait alors engagée par des victimes voulant être indemnisées de leur préjudice. Article 1240 du Code civil.
Mais c'est complètement lunaire.
Vous comprenez pourquoi j'aime Que Choisir?
Et alors, il y a
pourquoi
deux
je
jours...
surkiffe Que Choisir?
Il y a 2 jours, vous vous êtes dit, est-ce que je m'abonne de nouveau? Est-ce que vous allez le faire?
Bah, c'est une vraie question que là vous me posez. C'est une question intime, c'est une question difficile. C'est une question qui demande du temps.
Je vous laisse.
Mais c'est une bonne question.
Et un truc de dingue.
Merci de me l'avoir posé en tout cas.
Vous ne devinerez jamais ce que j'ai fait il y a deux jours.
Vous êtes abonné à Que Choisir.
Comment vous avez deviné ? Merci Arthur H d'avoir été avec nous. Je le rappelle, Fugue, ça sort chez Folio. Ouais. Et le spectacle La Boxeuse Amoureuse, allez sur le site de la scène musicale. Ce sera le 21 et le 22 en live avec Marie-Agnès Gillot et un boxeur, et de la vraie boxe. Mais quand même, il n'y a pas boxé Marie-Agnès Gillot et vous au piano. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Harry Roselmack, le journaliste qui fête les 20 ans de l'émission mythique 7 à 8 sur TF1 cette rentrée. Et puis Alexandre Desplat, compositeur français, doublement oscarisé, triplement césarisé pour ses musiques de films, et il sort un nouvel album de musique classique. Juste après le flash, Anne Romanoff avec sa bande, ça fait du bien. Je vous dis à demain.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.